final, difficile à comprendre, j'insiste, on y reviendra, c'est une vie absolue et éternelle. Et ça, je ne connais nul père de l'Église pour avoir mieux expliqué ça qu'un des plus anciens, et c'est pour ça que pour moi c'est un bonheur extraordinaire que d'être à Lyon, c'est Saint-Irénée. Saint-Irénée, docteur insurpassable, à mon sens, de l'anthropologie ternaire. Car l'Esprit, tout en commençant à transfigurer celui qui l'accueille, eh bien, en transfigurant l'être, il lui confère une immortalité qu'il ne possédait pas. Ah, je vais me faire encore taper sur les doigts tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, et ce n'est pas moi qui le dis. De moi-même, je ne dirai rien. Ce qui m'intéresse, c'est vous transmettre, en fait, une conception dont je connais la profondeur, la cohérence, l'intelligence et la luminosité. Eh bien, cette conception nous dit cela, et je vous affirme qu'elle est celle de l'Évangile. Et d'ailleurs, je dirais qu'elle ne m'intéresse qu'à ce titre. Que parce qu'elle est celle de l'Évangile, c'est pas parce qu'elle est celle de Saint-Irénée, c'est parce que celle de Saint-Irénée, on peut en être sûr, est celle des apôtres, et celle des apôtres est celle du Christ. S'il n'était pas ça, ben après tout, j'irai voir les écrits intertestamentaires, je m'intéresserai aux gnostiques, ça m'est déjà arrivé, mais non. Là, ce qui est fondamental, c'est que c'est cela, nous remontons à celui qui a les paroles de vérité. Absolument. Lorsque nous parlons des différentes morts cet après-midi, et des immortalités que l'anthropologie demande de distinguer, je reviendrai sur ce sujet donc capital du fait que l'immortalité nous est proposée, qu'elle ne nous est pas imposée. Pour l'instant, concernant l'action de l'esprit, je désirais que nous retenions deux choses. La première est que cette action est aussi imperceptible au corps qu'inintelligible au seul mental. Je vous ai dit, des gens intellectuellement très développés, j'ai vécu en milieu universitaire où ces gens sont, ils savent tout, mais ils ne comprennent rien. Et notamment lorsqu'on leur parle, effectivement, de dimension spirituelle. C'est évident. Donc, il s'agit effectivement d'une dimension donc très subtile et qui n'est pas donc visible aux yeux du corps, et qui n'est pas intelligible au seul mental, à la seule intelligence rationnelle. Pour commencer à percevoir ce qui se passe, eh bien, il faut déjà un petit peu soi-même s'être déjà ouvert à l'esprit. Rappelons-nous l'antique adage, seul le semblable voit le semblable. C'est-à-dire que seul mon esprit peut voir l'esprit qui est en vous. Ou les fruits de l'esprit qui est en vous. Autrement dit, donc, sans mon corps, pas de corps, sans mon âme, pas d'âme, sans mon esprit, je ne vois pas l'esprit. L'autre chose que je voulais vous dire est que, du moins, dans notre condition actuelle, même au plus grand, eh bien, l'esprit ne se donne jamais à connaître en lui-même. Il se donne à connaître dans son fruit. On va revenir sur ce que le Père Laurence disait tout à l'heure. Vous connaissez d'abord tous le principe du fruit. Jésus l'exprime, le dit très joliment dans Saint Luc, au chapitre 6, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Sur les épines, on ne cueille certes pas des figues, et sur un buisson, on ne vendange pas du raisin. Parole extraordinaire. D'ailleurs, ce que la sagesse populaire dit de la façon suivante que j'aime beaucoup, eh bien, les chiens ne font pas des chats. C'est aussi un peu la même idée. Et quel est ce fruit, puisque nous parlons donc du principe du fruit? Pour l'observateur, qui de manière si incertaine que ça, que ce soit, est malgré tout de l'apercevoir, pour l'observateur qui est déjà sensible aux questions spirituelles, et c'est votre cas puisque vous êtes là, quel est ce fruit? Eh bien, c'est la deuxième chose sur laquelle je désire attirer votre attention avant que nous parlions donc de l'anthropologie ternaire dans sa dynamique. Eh bien, ce fruit, toutes les grandes traditions en donnent une peinture. Et là, puisque nous sommes dans le cas de la tradition chrétienne, eh bien, il faut aller à Saint Paul immédiatement, Galates chapitre 5, verset 22. Quel est le fruit de l'esprit? Eh bien, le Père Laurence nous l'a décrit absolument hier. Il l'a présenté comme étant le fruit de la méditation. Mais il a tout à fait raison, c'est la même chose. Ce fruit est d'abord amour, joie, paix, fidélité, bonté, humilité, tempérance, maîtrise de soi. Alors vous allez me dire, mais là, ce sont des qualités psychiques. Je connais des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, eh bien, qui sont parfaitement en paix avec eux-mêmes, qui sont très généreux, très aimables, qui ont une certaine humilité, qui aiment, etc. Oui, on est bien d'accord, mais il s'agit, et le Père Laurence vous en a averti aussi hier, et il s'agit d'entendre, effectivement, pardon, vous m'entendez mal? Oui, c'est mieux. Il s'agit de comprendre, donc d'entendre ces traits comme étant conditionnés par le premier. C'est-à-dire que la générosité, la fidélité, la bonté ne sont à prendre comme des traits spirituels que dans la mesure où ils expriment l'amour dont il est question en premier. Amour, paix. Et la paix dont il est question n'est pas la paix que donne le monde, le Christ le précise bien. La paix que je vous donne n'est pas celle que donne le monde. Et la joie dont il est question, c'est une joie sans cause. Et bon, on reparlera tout à l'heure de ça si on fait un peu de phénoménologie de l'esprit, mais quand l'esprit montre le bout du nez, lorsqu'il vous fait la grâce, ou lorsque Dieu vous fait la grâce, effectivement, de se découvrir ou de s'ouvrir à vous, eh bien, le critère le plus simple, le plus immédiat, c'est la joie, mais une joie souveraine. Et une joie qui n'est pas psychique, pourquoi? Parce que rien de psychologique l'exprime, l'explique. La preuve en est, ce que je disais à une journaliste hier, la preuve en est, c'est que cette joie peut se déclarer dans les moments de déréliction les plus totales. Vous avez des témoignages de soldats dans des tranchées, dans des conditions absolument épouvantables, atroces, qui tout d'un coup, pour quelle raison, sont pris d'une sérénité, d'une paix, qui ont un dévouement à ce moment-là absolument extraordinaire. Bon, Tolstoï prend ça de façon admirable. Enfin bon, c'est des choses connues, mais dont on ne parle pas assez. Et là, donc, cette joie est une joie donc spirituelle. Bien, je ne peux développer maintenant cette énumération des 9 traits. Nous y reviendrons peut-être, puisque nous allons parler par la suite donc de la seconde naissance. On est en train d'essayer d'appréhender l'esprit. Je vais dire encore une chose, je vais un petit peu plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave. Rien n'est grave de toute façon. Je veux dire ceci. Vous trouvez dans l'Évangile des symboles et des paraboles remarquables, mais pourtant qui paraissent très complexes aussi, pour nous parler de l'esprit, pour nous parler du royaume des cieux, c'est-à-dire de ce monde sur lequel ouvre l'esprit. Or, on commence à comprendre l'esprit quand on commence effectivement à comprendre sur quoi il donne. Et on trouve dans l'Évangile de Jean, son chapitre 15, je prends uniquement cette image, que je trouve qui est extraordinaire, insurpassable, qui est celle-ci. Dans le chapitre 15 de Jean, dans ce chapitre, qui est le chapitre donc du pain de vie, où il parle du pain de vie, le Christ nous dit... Pardon, je me trompe ? Alors non, je suis dans le chapitre 15. Voilà, oui, alors pardon, excusez-moi, tout à fait, je mélange deux choses. Je veux vous parler justement du cep et de la vigne. Eh bien, au chapitre 15, voici ce que le Christ donc nous dit, et je crois qu'il y a là l'image la plus juste et la plus précise qui se puisse jamais concevoir pour parler des rapports liant l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'esprit humain, à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Voici ce que dit le Christ. Il dit « Je suis la vigne véritable ». Et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Je suis la vigne, et vous les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Or, l'esprit de l'homme est bien en l'homme, le lieu de cette greffe. Le lieu de cette fécondation par laquelle la nature humaine s'ouvre à la nature divine et l'accueille, et par laquelle la nature divine se donne à l'humaine et en elle se déverse. L'esprit est le lieu donc de cette greffe donc du sarment sur le cep. Selon moi, le symbole classique qui tente à faire comprendre l'esprit comme un organe de vision. Et ça, c'est la symbolique la plus courante. On cherche à nous faire voir l'esprit, mais c'est justifié comme étant le troisième œil, les yeux illuminés du cœur, et en nous parlant de l'esprit du monde sur lequel donne cet œil. C'est une façon très intéressante, excellente de parler de l'esprit. Soit. Mais je pense que ce symbole de la greffe est encore supérieur, ce symbole du lieu de fécondation est encore supérieur à l'approche de l'esprit en termes d'organe de vision. Cependant, je vais dire encore ceci, et j'en aurai terminé pour l'esprit pour le moment. Il y a encore, à mon avis, une façon plus riche, plus féconde, et ça va être celle que je vais vous demander de retenir lorsque nous parlons de l'esprit. Les deux façons dont j'ai parlé de l'esprit jusqu'ici l'instrumentalisent en quelque sorte. J'ai fait de l'esprit un organe de vision, un organe de fécondation, un instrument, un lieu. Or, l'esprit, il s'échappe toujours. Il est ce devant quoi les mots reculent. Où il recule devant les mots, devant, il ne veut pas se laisser enfermer par toutes ces approches. Or, l'esprit est bien autre chose. Qui en a une quelconque expérience, et vous en avez tous une petite expérience, aussi faible soit-elle, cette expérience nous dit qu'il faut dépasser cela. Car l'esprit est, au sens juste des mots, je dirais, il est un être. Il est un être vivant. Il est une présence vivante. Je pourrais dire encore une personne. Mais l'anthropologie ternaire, alors qu'on l'envisage uniquement sous l'angle de sa structure, eh bien, elle nous conditionne à le regarder malgré tout comme étant une partie, comme étant un élément. Eh bien, habituons-nous à considérer l'esprit comme étant l'être entier qui s'est ouvert à cet esprit. Et on trouve ce vocabulaire chez les pères. Par exemple, Ignace, si je me souviens bien, pas Ignace de Loyola, Ignace d'Antioche s'adresse à Polycarpe en lui disant « Toi qui es esprit ». Il ne dit pas toi qui es corps, âme, esprit, il suffit de dire qu'il est esprit. Hein. Le fait donc de l'esprit, c'est cet être entier. On va dire, je vous propose d'en rester là pour le moment pour l'esprit, l'esprit est en nous, cet être nouveau en quelque sorte, qui peut effectivement advenir et qui est notre être réel, essentiel, dont nous portons la promesse et que l'on va essayer maintenant de mieux appréhender en envisageant l'anthropologie ternaire dans son mouvement. Alors, dernière partie de cet exposé de ce matin, j'espère qu'il me reste... Alors, quel est le timing ? Dominique, où est-il ? Ah, alors, donc, il reste 10 minutes ? Oui, alors, vas-y. D'accord, très bien. Vous avez encore un peu de courage ?
Oui.
Je suis un peu cabotin parce que vous me diriez... Oh, vous, non, pas du tout. Vous me diriez non, mais je dirais, bah, c'est très bien, on passe aux questions, après tout. Ça ne serait pas grave. Bon, donc, l'anthropologie ternaire considérée dans sa dynamique, et j'arriverai effectivement au bout de mon exposé, on continuera cet après-midi. Je viens de dire que l'esprit humain est une personne. Tout au moins, c'est ce que j'essaie de vous dire. Une personne que nous portons en nous. Une personne qui n'existe pas, bien sûr, mais qui est à venir, en fait. Hein. Lorsqu'on nous parle du Christ en nous, je dis oui et non. C'est un Christ que nous avons à faire venir, que nous avons à prier. Il n'est pas encore vraiment là. Bien, je viens de dire que l'esprit est humain et qu'il est une personne. L'expression est osée, je la sais contestable, mais gardons-la car elle explicite de l'esprit cette condition, qu'il partage d'ailleurs avec celle de l'âme, condition faisant qu'il ne peut se concevoir valablement que sous forme concrète et vivante. Nous l'avons déjà dit, l'âme, pas plus que le corps d'ailleurs, n'a de réalité en soi. Elle ne donne prise à l'observation et à la réflexion, à l'intelligence et à l'étude, que sous forme incarnée, que sous forme de l'unitotalité qu'elle anime, laquelle n'est autre que la personne naturelle, faite de corps et d'âme qui est la nôtre. De reste, donc, souvent dans l'écriture, le mot âme tout seul suffit à désigner cette personne naturelle en entier. Et bien, comme je disais, le mot esprit suffit aussi à désigner, cette fois, l'être achevé, accompli dans sa totalité tridimensionnelle. Mais maintenant, considérons le fait suivant avec une grande attention. Certes, alors que l'homme, en toute conscience, et dans la plus grande profondeur de son intériorité, consent librement à laisser grandir en lui son esprit, eh bien, il change fondamentalement de condition. Non d'abord sur le plan de l'apparence, mais sur celui de l'essence, qui est un monde qui n'est pas visible aux yeux du corps et qui n'est pas intelligible aux yeux de l'âme. Il devient en fait, sur ce plan-là, un être entièrement nouveau. En quelque sorte, il naît une seconde fois. Mais encore, et là le concept est piège, convient-il de bien comprendre cette seconde naissance qui est source d'erreurs et qui peut se montrer une voie de garage et aussi une voie catastrophique. Hein. Encore faut-il bien comprendre cette image de la deuxième naissance. L'image de la parturition, l'image de l'âme qui, telle la Vierge Marie, adombrée par l'Esprit Saint, engendre Jésus en son sein. Cette image est très belle, elle est employée très couramment, notamment dans la mystique rhénane. Mais elle incite à méditer, suivez-moi bien, cette idée, c'est qu'emploie le Christ, hein, il parle de la naissance d'en haut, il parle de la nouvelle naissance. Cette idée, cette notion de naissance, pour parler de la transformation dont nous parlons, est suprêmement intéressante, c'est une des meilleures métaphores possibles, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle nous parle, elle campe, elle incite à méditer sur deux personnes, dont l'une se séparera et se distinguera de l'autre, pour recevoir dans l'histoire une identité différente. Or, la transformation dont nous parlons, la naissance spirituelle dont nous parlons, il n'en va pas de même. Il n'en va pas de même de cette seconde naissance, de cette naissance par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de la naissance d'un autre être, c'est aussi nous-mêmes. Il est totalement autre et totalement nous en même temps. Donc, l'image de la naissance est excellente, mais elle a cette limite aussi. Elle a une autre limite dont je vais parler. Je notais ceci aussi. Il faut concevoir cette naissance nouvelle un peu comme la naissance progressive, on va dire, de l'adolescent dans l'enfant. L'adolescent n'est pas d'un seul coup comme ça. Il naît très progressivement. L'adulte monte progressivement, effectivement, dans le psychisme et dans le corps de l'adolescent. L'être nouveau qui monte, que nous appelons de nos voeux, eh bien, il monte tout aussi progressivement. Il ne s'agit pas donc d'un événement ponctuel qui est fait, ça y est, c'est fait, je suis né. C'est toujours Zindel. Je ne vais pas vous parler de Zindel maintenant, autrement je n'arrêterai pas. Zindel vous dira, jamais derrière, toujours devant. C'est toujours à faire. Toujours à remettre sur le métier. Donc, bien comprendre, commencer à bien comprendre cette notion. En fait, il y a une autre image pour parler de cette transformation, de la naissance et la venue esprit, une autre image qui pédagogiquement est très riche, c'est celle de la métamorphose animale. Et tous les grands mystiques, enfin beaucoup de grands mystiques, y recourent, notamment Sainte Thérèse d'Avila qui médite longtemps dans le château intérieur sur la métamorphose, donc du ver à soie qui se transforme en bombyx, vous le savez. Eh bien, cette image donc des métamorphoses animales, telle celle qui transforme les chenilles en papillons, ou différentes nymphes en libellules, en cigales ou en cétoines, est excellente. J'en reparlerai cet après-midi. Mais parmi les enseignements les plus féconds de cette comparaison, il en est un dont je veux vous dire un mot maintenant et sur lequel je vais terminer. Il y a un aspect de cette image, il y a un enseignement de cette image qui est le suivant, que les saints, les mystiques et les spirituels ont le courage de regarder en face, mais que nous, hommes ordinaires, nous nous empressons d'oublier. Et je ne dirais pas que je me suis fait injurier, mais presque, c'est une réaction que je trouve parfois dans le public, lorsque je prolonge ce parallèle entre la deuxième naissance et la naissance animale, et les métamorphoses animales, en employant le vocabulaire qui va suivre. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette image ? À savoir que si l'anthropologie ternaire dit juste, vraiment ce que je crois profondément, hein, croyez-le, autrement je ne serais pas là, eh bien si elle dit juste en affirmant qu'il naît d'homme fait, d'homme accompli, d'homme adulte, d'homme achevé, Irénée dit d'homme téléios, qui a atteint le but, s'il naît d'homme donc accompli que deux fois né, ceci de la même manière qu'il n'y a de papillon achevé qu'une fois sorti de sa chrysalide, qu'il n'y a d'imago que libéré de sa larve. Eh bien, ça signifie quoi, très exactement? Eh bien, ça signifie très exactement et inéluctablement que nous ne sommes pas encore des hommes. Du moins, pas vraiment. Du moins, pas encore. Ah. Car tel est un enseignement fondamental de l'anthropologie ternaire, lequel, comme bien d'autres, mais avant tous les autres, la distingue complètement de l'anthropologie moderne universitaire, bipartite et j'allais dire moralisante. Cet enseignement est que notre humanité, et je vais le dire à la manière de Maurice Indel, notre humanité n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous. Chaque matin, j'ai à la construire. Ah, ça c'est fou, ça donne du sens aussi à la vie, ça donne du boulot. Ça, c'est pas évident. Elle est devant nous. Cette leçon vaut pour chacun d'entre nous pris personnellement. Elle dit à chacun que son humanité ne lui est pas donnée, mais qu'elle est pour lui chaque jour donc une tâche. Cette leçon est d'une lucidité extrême et elle doit nous inciter à une modestie et une humilité non moins extrêmes. Mais elle est seule, au fond, je crois, cette leçon, assez forte, douloureuse et cinglante aussi, pour que nous tentions en fait l'effort de nous libérer de celui que nous croyons être et que nous ne sommes pas, pour devenir enfin celui-là même que nous sommes, celui-là même dont nous portons tous au tréfonds de notre cœur l'indéfectible nostalgie, et qui depuis la nuit des temps, en fait, nous appelle, nous attend, nous aime, et c'est pour ça que vous méditez, c'est pour ça que nous méditons, bien sûr. Alors je terminerai cette conférence par un mot sur le thème suivant, qui me fait particulièrement plaisir et qui m'émeut beaucoup. Je terminerai cette première conférence en attirant votre attention sur cette coïncidence que je crois providentielle, en tout cas extrêmement gracieuse, et qui nous concerne tous. C'est en effet aux portes de Lyon, il n'y a pas de doute, Écully-Lyon, c'est pas très loin, c'est aux portes de Lyon que nous nous réunissons tous aujourd'hui pour mieux découvrir les enseignements de l'anthropologie ternaire et spirituelle. Or, je l'ai laissé entendre, le premier et plus grand commentateur de cette anthropologie ne fut autre que Saint Irénée, premier évêque de Lyon, primat des Gaules, personnage immense, dont on a dit que la pensée, telle la lumière rayonnant d'un phare qui domine la mer, la pensée éclaira en son temps tout l'Occident. Et Jean Danielou dit de l'œuvre de Saint Irénée, quelque part, il faudra que je trouve la référence, qu'il pense qu'elle est pratiquement aussi inspirée par l'Esprit Saint que l'Évangile. En gros, il le laisse entendre. Le degré d'inspiration, le niveau d'inspiration de cette œuvre est absolument inouï. Il y a aussi, et encore, regardez la suite, les phénomènes de synchronicité, de corrélation, en quelque sorte, de conjonction providentielle sont assez extraordinaires. Il y a aussi que nous devons la plus parfaite, la meilleure des études historiques et de très loin, la seule, en fait, véritablement fiable de l'anthropologie tripartite, nous la devons à Henri de Lubac, qui, comme vous le savez, entre sa mise à l'index, il a eu un parcours un peu difficile, et sa création comme cardinal, eh bien, il a enseigné, je crois, au moins pendant une trentaine d'années à la faculté, il enseignait, je crois, la théologie fondamentale à la faculté catholique, devinez d'où, de Lyon. Bon, c'est quand même aussi significatif. Mais ce n'est pas tout. Après avoir été rejeté dans la nuit des temps et impitoyablement tenu à l'écart, comme nous l'apprend d'ailleurs Henri de Lubac pendant des siècles par les grands dignitaires de la Curie romaine, voici qu'en ce moment même, depuis quelques mois à peine, l'anthropologie ternaire est en train, je dirais, à mon sens, de renaître de ses cendres et de retrouver, cette fois de manière tout à fait officielle, eh bien, elle est en train de retrouver droit de cité au sein même de notre Église, de l'Église catholique romaine. Je dirais, je n'engage que moi, mais quant à moi, je suis sûr qu'en matière de doctrine, nous avons là affaire à un événement que je vois comme étant historique et auquel je serais peut-être enclin, pour ma part, d'accorder véritablement une portée peut-être prophétique. Or donc, eh bien, devinez, où se passe cet événement? Eh bien, à Lyon. À Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules, archevêque de Lyon, qui nous honore ce matin de sa présence, eh bien vient il y a peu, je crois que c'était au mois de septembre dernier, d'ouvrir donc un triennium, c'est-à-dire une période de 3 ans, qui sera consacrée à la découverte et à l'explication de l'anthropologie chrétienne telle qu'elle s'exprime donc chez saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, triennium donc consacré à expliquer aux fidèles du diocèse les beautés, la grandeur, en quelque sorte, de cette anthropologie ternaire. Alors voilà, prendre de nos jours une semblable initiative dans un diocèse d'une importance historique, je dirais, et symbolique quand même aussi considérable que le diocèse de Lyon, bien pour moi, ça signe de votre part, éminence, une volonté et un courage qui m'émeut profondément et dont je crois nous ne vous serons jamais assez reconnaissants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Singe. Et enfin, je vous parlerai cet après-midi de la manière dont la méditation prend tout son sens dans le cadre de cette anthropologie spirituelle, et parce qu'en fait, elle n'a aucun sens dans le cadre de l'anthropologie scientifique binaire, dualiste, universitaire, classique. En fait, elle ne vit bien que là, sur un plan conceptuel. On tâchera de mettre tout ça au clair. Alors, sur les informations préalables, je vais être assez bref. Bon. Tout d'abord, on va parler donc d'anthropologie. Le mot anthropologie, ici, dans ma bouche, ne signifie pas, ne désigne pas la discipline ou une des deux disciplines scientifiques de ce nom-là. On distingue scientifiquement l'anthropologie physique, l'anthropologie sociale, ce sont des disciplines scientifiques, des disciplines enseignées, ce n'est pas ça dont je parle, je ne parle pas de ces disciplines. Le mot anthropologie aura dans ma bouche un sens beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus modeste, il va désigner une conception, une représentation, une compréhension de ce qu'est l'homme. Ainsi, on pourra parler de l'anthropologie de saint Paul, ou de l'anthropologie égyptienne, de l'anthropologie amérindienne, ou de l'anthropologie du monde moderne, eh bien, c'est-à-dire comment le monde moderne, comment saint Paul se représente-t-il, ce qu'est un homme, de quoi est composé un homme, qu'est-ce qui définit un homme, qu'est-ce que la vie humaine. C'est très vaste, hein. Mais voilà le sens quand même que nous donnerons au mot anthropologie. Ceci dit, je désire maintenant lever une des difficultés majeures qui est celle-ci. Il se trouve que dans l'anthropologie biblique, ou plutôt même néo-testamentaire, très précisément, je fais référence à saint Paul, lorsque dans sa magnifique finale de sa lettre aux Thessaloniciens, il emploie donc les trois termes qui sont traduits par les mots tout à fait adéquats de corps, âme et esprit. Comment donc nous allons comprendre ces termes? D'abord, le mot âme. Eh bien, je vais vous dire qu'ici, dans l'anthropologie ternaire, lorsqu'on la présente, et notamment ça colle très bien avec l'anthropologie chrétienne, ancienne, le mot âme a un sens tout à fait technique qui correspond au sens étymologique de ce mot. Le mot âme en latin se dit anima, en grec psyché. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'âme ici? Ça désigne tout simplement le mental, les facultés psychologiques. Il s'agit de la dimension psychique de l'être. Et il s'agit donc de comprendre le mot âme en ce sens et non pas de lui accorder ce sens spirituel ou affectif qui est le sens courant dans lequel on prend le mot âme, chère âme, le devenir de mon âme, la survie de l'âme, etc. Il y a là déjà toute une connotation religieuse, dévotionnelle, spirituelle. Attention, non, pas du tout. L'âme, telle que j'entends, elle est celle qui est étudiée par la psychologie, finalement. Hein, le discours sur l'âme, c'est ce qui est enseigné donc dans les universités. On comprendra, c'est un choix hein, qui est fait ici. On peut donner un autre sens, bien sûr, au mot âme, mais comprenons bien ici, le mot âme désigne cela. Quant à l'esprit, à l'inverse, gardez-vous bien de l'assimiler à des qualités ou fonctions psychiques, ce qu'on fait souvent. Et ça fait partie du vocabulaire ordinaire, où on oppose l'esprit à la matière, etc. L'esprit, souvent, désigne le mental. Attention ici, l'esprit pour nous ne va pas désigner le mental, ne va pas désigner les fonctions psychiques, telles que la pensée, l'intelligence, ou l'ensemble de ses facultés. Car l'esprit dont nous allons parler est une réalité mystérieuse, spécifiquement, cette fois, religieuse et spirituelle. Nous y reviendrons. Donc, comprenez bien que c'est presque à l'inverse, finalement, du sens courant qui, dans certaines acceptions au moins, est donné, que je vais prendre ces termes. Hein. Je vais les prendre dans une acception, donc, pratiquement inverse à l'acception courante. Pourquoi ? Ce n'est pas un choix de ma part, c'est tout simplement parce que c'est l'acception, donc, originelle de ces termes. J'emploierai parfois l'adjectif d'ontologique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, ontologique désignera pour nous une composante ou une caractéristique ou une qualité qui est essentielle ou substantielle, enfin bref, qui est nécessaire, strictement nécessaire à la définition d'un être. Qu'il s'agisse de l'être de l'homme, de celui d'une pivoine, d'un rouge-gorge ou d'un triangle, peu importe. Le fait d'avoir trois côtés pour un triangle, voilà une caractéristique ontologique de l'être du triangle. S'il n'a pas trois côtés, ce n'est plus un triangle. L'anthropologie dualiste vous dira, un être qui n'a qu'un corps, aucune âme, ce n'est pas un homme. Un homme, il est défini par la combinaison, par l'union d'un corps et d'une âme, par exemple. Donc ce sont bien des composantes ontologiques essentielles à la définition de l'être. Enfin, ou ensuite, nous devons bien voir ceci, à savoir qu'on va opposer, au fil de ces deux journées, tout au moins dans mon propos, à travers ces deux conférences, l'anthropologie binaire, dite encore dualiste, à l'anthropologie ternaire, ou tripartite. Comprenons bien ces mots. Le mot de dualiste en philosophie, en histoire des religions, a très souvent le sens suivant. On désigne par là des conceptions, des courants qui opposent deux parties. Par exemple, le dualisme platonicien, l'opposition de l'âme et du corps. Attention, moi je vais parler du dualisme dans un sens qui est celui plutôt des ethnologues, des anthropologues, qui désignent quelque chose de beaucoup plus courant, c'est-à-dire une partition en deux. Sans forcément opposer les deux termes. C'est-à-dire que l'acception courante où nous sommes, où l'être humain est corps et âme, eh bien, on dira que c'est une conception dualiste dans la mesure où elle exclut tout autre terme ou tout autre troisième terme. Elle se contente de deux termes. Mais si je dis dualiste, ça ne veut pas dire qu'elle les oppose. Hein. On est bien d'accord là-dessus, parce que c'est aussi une confusion possible. Maintenant, l'anthropologie, donc binaire ou dualiste, distingue dans l'individu le physique et le psychique, et seulement ces deux dimensions, eh bien à l'opposé, l'anthropologie ternaire qui nous est beaucoup plus, qui nous est moins familière, eh bien elle distingue, vous l'avez compris évidemment, en l'être humain, trois composantes que d'ordinaire donc on désigne par le corps, l'âme et l'esprit, au sens que je viens donc de vous indiquer. Enfin, dernier point sur lequel j'insiste mais que je ne vais pas pouvoir développer, mais je vais vous demander de le garder quand même en mémoire, il se trouve que ces modèles binaires et ternaires sont deux modèles de compréhension de ce qu'est un homme parmi d'autres. C'est-à-dire que l'humanité, au cours de son existence, a forgé d'autres modèles. En Afrique noire notamment, donc j'ai travaillé en Afrique pendant quelques temps, on trouve des modèles qui distinguent 4, 5, voire jusqu'à 12 composantes essentielles de la personne. Des modèles d'une complexité rare, mais qui peuvent se réduire quand même à des systèmes plus simples. Mais donc, on a affaire ici à deux modèles. Je dirais que ces deux modèles sont les deux modèles les plus puissants, les plus extraordinaires, les plus pertinents, en quelque sorte, qui aient jamais existé. Le modèle dualiste, tout simplement parce que depuis la Renaissance, il est en train d'inonder le monde entier. Tout le monde se vit comme étant un corps et un psychisme, mais au-delà de cela, on ne sait plus de quoi il s'agit. On ne ressent plus rien. Et le modèle ternaire ou tripartite, parce qu'il se trouve que dans l'Antiquité notamment, je dirais aussi au Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il était quand même en Occident au moins, mais aussi en Orient, la référence donc essentielle. Et il est aussi la référence essentielle donc, de tous les courants spirituels et de tous les courants mystiques. Donc ces deux modèles sont les deux modèles les plus fondamentaux, les plus importants, à mon sens, qu'ait engendré l'histoire donc, de l'humanité. Alors ce sont des paradigmes, je viens de dire ceci. Ça, c'est un mot un peu compliqué. C'est-à-dire, ce sont des modèles, ce sont des canevas. Votre mère, lorsqu'elle vous a éduqué, l'école primaire, l'école secondaire, le collège, le lycée, l'université, eh bien, vous a enseigné, le disant pas, mais que vous étiez, que vous aviez une part physique et une part mentale, et la fonction, effectivement, de ces institutions a été de développer ces deux aspects, n'est-ce pas? On vous a élevé, vous vous êtes construit, vous vous êtes vécu suivant ces paradigmes, forcément. Forcément, nous sommes construits comme cela. On nous a enseigné que nous étions cela et nous sommes devenus cela. C'est ça la force des paradigmes anthropologiques, et je ne vais pas développer cela, mais c'est fondamental, c'est-à-dire qu'ils ont une force extraordinaire, ils conditionnent ce qu'ils décrivent. Ils ne décrivent pas l'homme tel qu'il est fait, ils font l'homme tel qu'ils le disent. Ah ça, c'est fou. Et c'est pour ça que c'est très important d'accorder une importance considérable à ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons a une importance, détermine, conditionne infiniment plus la réalité que nous pouvons le croire. Et c'est tout particulièrement vrai en anthropologie. C'est-à-dire, si vous pensez que l'esprit n'existe pas, vous ne le verrez pas. Ça, c'est sûr. Si par contre, vous lui laissez la possibilité d'exister, si vous commencez à vous sensibiliser à cette conception de l'homme dont je vais vous parler, si vous commencez à essayer de la vivre, si vous la laissez s'épanouir un petit peu en vous, là, il y a des chances que vous rencontriez des choses très mystérieuses et qui donnent du sens et qui font de la vie quelque chose d'extraordinaire. Alors que si, par contre, vous la réduisez à n'être que ce que l'on vous a dit qu'elle était, si vous vous réduisez à n'être que ce que l'on vous a dit que vous étiez, moi, je dirais, vraisemblablement, soit vous vous satisfaisez de cette image, eh bien, vous menez votre vie et vous n'êtes pas là, soit vous ressentez un sentiment d'incomplétude et dans ce cas-là, vous cherchez. Et la vie commence à prendre un sens. Bon, je ne développe pas ça plus avant, mais retenons que, et ça, les traditions orientales nous l'ont bien dit, l'homme devient ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il compense. Le père Laurence, hier, vous a cité ce passage extraordinaire de Saint Jean, où il vous dit, frère, nous ne savons pas, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, mais nous savons que nous serons tel qu'il est, parce que nous le verrons tel qu'il est. Seul le semblable voit le semblable. Ça, c'est fondamental, j'y reviendrai. Donc, la façon dont nous voyons les choses conditionne ce que nous sommes. Nous devenons ce que nous voyons. Nous devenons ce que nous pensons. Entraînons-nous donc à ne pas penser n'importe quoi. Et s'il y a des choix importants dans la vie, s'il y a des choix qui conditionnent et qui donnent sens à notre vie, des choix sur lesquels nous pourrons peut-être un jour être amenés à être évalués, c'est sur des choix de ce type-là. Des choix qui sont d'ailleurs totalement libres. C'est extraordinaire. Nous avons la liberté de nous concevoir et de nous construire comme nous voulons. Maintenant, sachons une chose, et je termine là-dessus sur ce préambule que je devrais peut-être développer un peu plus avant. Une erreur serait la suivante. Une erreur serait de croire que l'anthropologie qui distingue en l'homme, et je vais la développer, simplement le corps, l'aspect physique, la dimension physique, et qui ne s'intéresse qu'à la dimension psychologique, le tort serait de dire, ben oui, voilà, c'est un discours que l'on trouve en science, c'est effectivement l'anthropologie universitaire classique. D'ailleurs, lisez Lévi-Strauss, lisez les grands anthropologues, lisez Marcel Mauss, lisez Durkheim, lisez Sigmund Freud, qui était aussi un anthropologue remarquable. Il s'est planté, bon, ça c'est autre chose, mais enfin quand même, il a conditionné son temps. Ils réduisent, ils prétendent, ils le disent, ils prétendent étudier l'homme total. L'ambition de l'anthropologie scientifique universitaire, c'est l'étude de l'homme total, Marcel Mauss, ou le fait social total. Eh bien, regardez ce qu'ils étudient. Ils n'étudient jamais de l'homme que quoi? Eh bien, ses aspects physiques, ses productions physiques et matérielles et ses dimensions psychologiques. Et c'est tout. L'homme total, pour eux, c'est ça. Ils le réduisent à n'être que ce qu'ils en perçoivent. Or, l'homme est infiniment autre chose, bien sûr. Autrement, on ne serait pas là. Autrement, vous ne méditeriez pas, bien sûr. Ça, c'est le premier fait. Donc, il se trouve que l'on pourrait dire que l'anthropologie binaire, c'est l'anthropologie scientifique, je dirais athée, universitaire. Et qu'à l'opposé, l'anthropologie ternaire, qui admet en fait la présence d'une dimension spirituelle, disons un peu religieuse, avec la possibilité d'une ouverture à Dieu, puisqu'en fait il s'agira de cela, l'esprit, on verra, c'est encore autre chose, mais c'est bien cette dimension de profondeur où en nous, nous nous enracinons dans une présence qui n'est plus la nôtre, disons, où nous enracinons en Dieu, et où Dieu s'ouvre et se déverse en nous. Bon, il est bien évident qu'on pourrait dire une anthropologie qui admet ça, c'est une anthropologie religieuse. Eh bien, attention, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Preuve en est que le bouddhisme, qui a de mains égards, est une philosophie plus qu'une religion, et une philosophie athée. Eh bien, la spiritualité bouddhiste plus que tout autre, est une spiritualité ternaire. Et l'anthropologie du bouddhisme est une anthropologie fondamentalement ternaire. Donc vous voyez. Et à l'inverse, je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts par son éminence tout à l'heure, mais je ne vais pas hésiter à dire que l'anthropologie du catholicisme actuel, tout au moins celle qui s'exprime dans le magnifique catéchisme des évêques de 92, je maintiens que c'est une anthropologie binaire. D'abord, c'est une anthropologie, on lui dit merci, parce que le catéchisme du Concile de Trente, il n'est question que de Dieu et pratiquement pas de l'homme. Là, enfin, on a des chapitres d'anthropologie. Merveille. Mais, merveille, petite réticence quand même, les chapitres d'anthropologie s'appellent « L'homme un de corps et d'âme ». On dit quand même, d'accord, mais quand même, saint Paul nous parle de l'esprit. Et sans arrêt, il est question du conflit de la chair et de l'esprit, etc. Alors, on lit, et on s'aperçoit que l'esprit, quand même, il existe. Mais il existe, et ça, le vocabulaire, les mots parlent, et c'est extraordinaire. Vous le lirez, vous détaillerez ça, il n'existe que sous forme qualificative. L'esprit humain n'intervient que sous forme d'adjectif ou de qualificatif, jamais sous forme donc nominative de substantif. C'est très parlant, l'esprit saint, oui, il est sous forme substantive, pas l'esprit humain. Et pourquoi ? Parce que ici, c'est l'empreinte de l'anthropologie dualiste qui marque son sceau, en quelque sorte, l'être humain, est défini par le physique et le psychique. Le reste, c'est, non pas du superflu, c'est quelque chose qui est de l'essentiel peut-être, mais qui est de l'ordre de l'avoir, ce n'est plus de l'être, et je vais revenir donc là-dessus. Dernier point, préalable, j'avance, dernier point, ne pas confondre donc l'anthropologie ternaire avec une anthropologie religieuse et l'anthropologie dualiste ou binaire avec une anthropologie athée, vous voyez les choses sont un petit peu plus complexes. Dernier point, ne pas penser que je vous sors un lapin, que je sors cette anthropologie comme un lapin d'un chapeau, elle a une histoire très très longue. Et là où elle est extraordinaire, c'est qu'en fait, il s'agit d'un invariant comme les anthropologues n'en rencontrent jamais. Ils en parlent peu de cet invariant parce qu'il les dérange tellement, j'entends les anthropologues universitaires, l'anthropologie tripartite, depuis que j'en parle, moi l'université, elle ne me donne pas de cours d'anthropologie. Elle a bien compris que ce que je disais, ce que j'allais dire, évidemment, la dérange un peu. Parler Lévi-Strauss, on peut y aller. Bon, c'est un géant de la pensée. Oui, il n'offense que des porteurs. Enfin bon, je ne veux pas dire. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que cette anthropologie est un véritable invariant. C'est-à-dire qu'on la retrouve aussi bien en Occident qu'en Orient. On la trouve aussi bien dans les religions occidentales, dans les trois grands monothéismes, le christianisme, l'islam, le judaïsme. Et mon propos n'est pas aujourd'hui de vous le démontrer, mais ça se fait très simplement. On la trouve aussi bien dans les trois plus grandes religions d'Orient, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme. On ne comprend rien au taoïsme, Marcel Granet le dit lui-même, si on n'a pas présent à l'esprit, effectivement, ce schéma ternaire. On la trouve aussi bien dans les philosophies telles que les philosophies platoniciennes, néoplatoniciennes, que dans le stoïcisme. Donc, en fait, cette anthropologie n'est la propriété d'aucune période historique, d'aucun courant philosophique, d'aucune religion, d'aucune tradition, véritablement. On ne peut pas se l'approprier. Et là, il y a cette liberté, que je dirais de la liberté de l'esprit, qui est extraordinaire, et là, on s'aperçoit qu'on touche à quelque chose vraiment de profondément humain, parce que de profondément universel. Et même moi, travaillant en Afrique, j'ai vu, ou j'ai senti, qu'elle s'exprimait encore par d'autres canaux, effectivement, à travers des schémas plus complexes. Voilà pour donc cette introduction, cette première partie. Enfin, un dernier contresens, oui, que j'oubliais, qui est celui-ci. Un procès qui est fait en anthropologie tripartite, mais c'est un méchant procès, et ça n'empêche pas de nombreux théologiens que dénonce d'ailleurs le père de Lubac à juste titre, procès de fer très fréquemment, à savoir, mais voyons, anthropologie tripartite, trichotomique, vous découpez l'être humain en trois morceaux, ça ne veut rien dire. Bon, c'est comme si on leur reprochait de distinguer, eux qui distinguent le corps et l'âme, de le découper en deux morceaux. D'ailleurs. Ah non, mais il vous précise, corps et âme, unitotalité, il n'est pas de corps sans âme, d'âme sans corps. Mais évidemment, nous aussi, lorsque je parle de vision ternaire de l'homme, ça n'équivaut évidemment pas à découper celui-ci en trois morceaux. Il est bien évident que distinguer le corps, l'âme et l'esprit n'équivaut nullement à accorder à chacun une existence séparée des deux autres. Chacune de ces composantes n'a aucune existence en soi. D'ailleurs, un corps humain n'a pas d'existence en soi, ou alors c'est un cadavre. Il n'a d'existence que vivant, donc associé à une âme, puisque l'âme anime, n'est-ce pas ? Bon, donc il ne s'agit pas d'accorder une existence en soi à ses composantes. Pas plus la forme, la couleur ou la saveur d'un citron ou d'une fraise, la forme, la couleur, la saveur, je prends ces trois pour faire un parallèle avec les trois dimensions, n'a d'existence en soi. La saveur d'un citron, s'il n'y a pas le citron, ça ne flotte pas en l'air. Hein. On est bien d'accord là-dessus. ces trois dimensions ne prennent de sens qu'ensemble et unies ensemble. Eh bien voyons, parlons de cette anthropologie considérée dans sa structure, c'est-à-dire dans ces trois termes, qu'est-ce qu'on veut dire par là, et comment ils s'organisent entre eux, c'est-à-dire quelles sont les interrelations que nourrissent ces trois termes. Et après on verra comment ils apparaissent dans l'histoire de l'individu, voire si j'ai le temps, mais peut-être pas dans l'histoire, je dirais, phylogénétique, l'histoire du développement de l'espèce. Un mot donc sur ces trois composantes prises séparément. Mais nous sommes bien d'accord qu'il s'agit là d'une simple commodité de présentation, puisque nous savons qu'aucun de ces trois termes n'existe en lui-même. Il n'y a pas de corps vivant seul, il n'est de corps vivant qu'animé par une âme. Il n'est d'âme qu'animant un corps. Et il naît d'esprit, c'est fondamental, l'esprit ne flotte pas en l'air, hein. Il naît d'esprit qu'animant, ou pardon, vivifiant ou spiritualisant une âme et un corps. Saint Justin Martyr disait « L'âme est la demeure ou la maison de l'esprit de la même façon que le corps est la maison de l'âme. » Ce qui nous dit bien qu'il y a un phénomène d'emboîtement, mais un phénomène donc d'union. Ceci dit, je ferai remarquer que ces trois modalités de l'être humain, c'est assez extraordinaire, se présentent comme entretenant entre elles des rapports tout à fait semblables à ceux de l'air et de la lumière. Oh, c'est une très vieille image qui date du IVe siècle. À savoir que, et on dit cela aussi à propos de la Trinité divine, mais ça fonctionne parfaitement au niveau du ternaire humain, à savoir que ces trois modalités, ces trois dimensions, se montrent toujours parfaitement unies, mais sans nulle confusion. Elles sont toujours parfaitement distinctes, mais sans nulle séparation, comme l'air et la lumière. Ce qui est possible parce que nous avons affaire là, ainsi que le disait Blaise Pascal, à trois ordres de réalités différents qui ne font pas nombre les uns avec les autres. Ce sont des ordres de réalités différents. Eh bien, parlons de ces trois ordres. Alors, je vais vous en parler de la façon la plus concrète possible, et puis pour vous montrer qu'on avance quand même dans un terrain solide, et ce n'est pas parce qu'on fait qu'on parle d'esprit, que nous nous situons dans le domaine de la spiritualité, qu'on parle de choses éthérées, réservées à une élite. Pas du tout. Pas du tout. C'est un procès, d'ailleurs, qu'on peut faire à l'Église, d'avoir essayé de nous faire croire que c'était réservé à une élite, alors que nous sommes hommes autant que les religieux et les prêtres, et que ça nous concerne au premier chef. Le corps tout d'abord. Ben évidemment, le corps, c'est celui sur la dimension sur laquelle le consensus est maximum, bien sûr. Le corps ouvre précisément sur le premier ordre de réalité, soit le monde physique sensible. Par ses cinq sens, il ouvre donc ce corps sur l'ordre de réalité matérielle, on dirait encore le monde des objets. Je vais assez vite parce que je pense que là, vous ne pouvez pas avoir de doute sur ce sujet. Mais le corps n'est pas seulement ouverture et sensation, il est aussi action. Bien sûr, il est aussi action. Par ses mouvements, par ses membres et organes, le corps me permet d'agir sur le monde physique. Le corps est donc, pour la personne, on va dire, ça c'est une acception que, peut-être un peu nouvelle, il est comme l'interface de la personne avec le monde extérieur. Par le corps, le monde extérieur peut entrer dans mon âme et influer sur elle, et par mon corps, je peux exprimer mon âme dans le monde extérieur et agir sur lui. Il y a donc ce phénomène d'aller-retour entre le monde extérieur et mon moi intérieur, que permet le corps. Et sans ce corps, je ne pourrais pas faire cela, évidemment, et cette fonction d'interface est tout à fait fondamentale. En quelque sorte, par bien des côtés, on peut comparer le corps à un scaphandre qui me permet, effectivement, de vivre dans ce milieu, dans le milieu dans lequel je me trouve, et qui me permet de puiser dans ce milieu ce dont j'ai besoin, d'accord, et qui me permet donc d'agir sur ce milieu. Dans ce milieu, dans le milieu physique, le corps est pondérable, ou pondéral, il est matériel. Mais peut-être que cela ne lui est pas essentiel. Je dis bien peut-être. On peut en effet le penser d'abord comme une figure, une composante, je dirais, principalement formelle, laquelle pourrait avoir des degrés de matérialité différents suivant l'ordre de réalité où le sujet doit vivre. Après tout, après la mort, on ne sait pas ce qui se passe. On aura à faire un autre ordre de réalité si on existe toujours. Et peut-être que notre corps présentera des qualités en rapport avec ce milieu physique auquel on ne peut pas penser et imaginer. D'ailleurs, ce n'est pas la peine, bien sûr. En sorte que certains des organes que nous lui connaissons actuellement pourraient ne pas lui être essentiels. C'est-à-dire qu'il pourrait ne pas les avoir toujours. Alors nous effleurons là une distinction délicate sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est-à-dire celle du corps-sujet et du corps-objet. On dit encore du corps que l'on est, qui va nous accompagner après, en quelque sorte, et du corps que l'on a, c'est-à-dire du corps que l'on va laisser. Edith Stein, cette grande mystique, juive convertie, devenue carmélite, comme vous savez, est morte à Auschwitz, distinguée, mais elle parlait en allemand, le corps, disons, matériel, Körper, du corps que l'allemand appelle Leib, et ce sont donc effectivement deux corps différents, tout en correspondant à la notion de corps malgré tout. Bon, cependant, quoi qu'il en soit, de l'intérêt de cette distinction, je ne la pousserai pas plus avant, parce qu'elle est assez délicate, et il faut que nous allions plus vite, et que nous parlions de l'âme, maintenant. Mais si vous avez des questions sur le corps tout à l'heure, bien sûr, je serai à votre disposition. L'âme, vous l'avez compris. Alors, revenons à l'âme, non plus conçue ou comprise dans le sens, je dirais, où le catéchisme, où les prêtres d'autrefois entendaient l'âme, où les romantiques entendent l'âme. Écoutez ce que j'ai à vous dire ici. L'âme, vous l'avez compris, le corps dont on vient de parler ne pourrait remplir la moindre de ses fonctions, c'est-à-dire bouger, respirer, etc., s'il n'était vivant. Autrement dit, s'il n'était animé, c'est-à-dire encore ayant part à une âme dont il bénéficie, car âme en latin, je le rappelle, se dit anima. Ce qui vous montre par excellence qu'un être qui par excellence possède une âme, c'est l'animal, le mot même nous le dit. Contrairement à ce qu'on nous a laissé penser. D'ailleurs, on nous a laissé croire. Non, j'exagère un peu, je vais vous taquiner. Il est courant le discours comme quoi les animaux n'ont pas d'âme. On a dit aussi que les femmes n'en avaient pas. Bon, bon, je ne vais pas développer ça, mais vous voyez si c'est stupide. Bon. Donc, cette étymologie, je répète, suffit à nous prouver que par définition, donc, l'animal par excellence a une âme. Mais l'étymologie grecque est aussi riche d'enseignements, je ne redéveloppe pas ce que je disais tout à l'heure, puisque l'âme en grec se dit psyché. Qu'est-ce que c'est que la psyché? C'est ce qu'étudie la psychologie. Eh bien, ouvrez un manuel de psychologie, bien vous verrez ce qu'est l'âme. Elle peut être entendue de deux façons, comme le corps peut être entendu à travers ses fonctions et ses organes. L'âme, la psyché, le mental, peut être compris en termes d'instance, de centre. Vous vous référez aux topiques freudiennes, aux topiques, je ne sais pas, jungiennes, ou à celles d'Adler, etc., ou des grands psychologues, le ça, le moi, le surmoi, la persona. Enfin, on n'est pas ici pour faire la psychologie. Ça, c'est la topique en termes d'instance, d'organe. Il y a celle en termes de fonction. L'âme a des fonctions sensitives. Elle a des fonctions volitives. Elle a des fonctions cognitives. Elle a des fonctions instinctives, etc. On ne va pas parler des grandes facultés de l'âme, mais vous en avez aussi la liste. Elles sont étudiées dans les manuels de psychologie et au fil des études de psychologie. Donc, la psyché pour nous, l'âme, ce sera la psyché, le psychisme, le mental. Voilà, c'est simple. Nous ne prendrons donc pas l'âme dans son acception dévote et confessionnelle. Ceci dit, on va retenir de l'âme utilement quatre traits que voici. De même que le corps donc est fait d'organes, l'âme est faite donc de différentes fonctions et de différentes instances, je l'ai dit. Deuxième point, il n'existe pas plus d'âme sans corps que de corps sans âme. Le doublé corps-âme forme une unitotalité. Soyons bien d'accord là-dessus, parce que souvent on fait ce procès-là aux personnes ou aux gens qui essayent de réfléchir dans le cadre d'autres anthropologies que l'anthropologie officielle. Ceci dit, le corps et l'âme, le corps et le mental forment une unité, une unitotalité, ce qui ne les empêche pas, l'image de l'air et de la lumière est là, ce qui ne les empêche pas d'être radicalement distincts l'un de l'autre. Ils sont par essence irréductibles l'un à l'autre. Le monde des os, le monde des cartilages, le monde des viscères, des liquides physiologiques, bref, le monde du corps n'est certainement pas le monde de la pensée, n'est pas le monde des idées, le monde des souvenirs, des projets, des rêves. Une preuve qu'évoquait hier le père Laurence, les yeux du corps ne voient pas ce qui est du domaine de l'âme, ce qui est du domaine de l'intelligible. Ils ne voient pas les idées. Mais ça n'empêche pas que les idées, elles existent bien. Donc on a affaire à deux ordres de réalités différents, ils sont radicalement distincts. Ou il y a tout un discours scientifique qui essaye de nous prouver le contraire, que tout ce qui est de l'ordre du psychique se réduit au physique. Bon, ce n'est pas le procès qu'on va faire maintenant, mais vous le savez. On continue sur l'âme. De même que le corps, l'âme aussi est ouverture. Elle est ouverture sur un ordre de réalité, sur un monde de réalité particulier. Il s'agit du monde non plus des objets, mais des sujets. Non plus des réalités sensibles, mais des réalités intelligibles, c'est-à-dire qui se lisent de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'agit du monde des âmes. Je ne peux comprendre votre personne, je ne vais pouvoir comprendre ce que vous me dites de vous-même que si moi-même j'ai une âme. C'est ma pensée, ma sensibilité, ma personne qui va m'apprendre à lire, à découvrir votre âme. Si je n'ai pas développé ma propre âme, je serai incapable de vous comprendre. Si mon âme est restée complètement infantile et si vous avez un discours d'adulte, je ne comprendrai pas. Donc, l'âme est ouverture sur le monde des âmes. Rappelez-vous ce qu'il dit, seul le semblable voit le semblable. Pour voir votre corps, il me faut des yeux du corps. Pour comprendre ce que vous me dites, il me faut des yeux de l'âme. Il me faut mon intelligence. Entendons par là ma faculté de vous lire, de vous comprendre de l'intérieur. Alors, de même que le corps est sensation et ouverture, l'âme est aussi sensation et ouverture sur un monde particulier, mais de même que le corps est action, l'âme est aussi action. Comment je peux agir sur le monde des âmes? Et c'est ce que je fais en ce moment puisque je parle. Eh bien, l'instrument privilégié de l'âme pour agir sur le monde, c'est le langage. Que ce langage soit parlé ou un langage gestuel. Et vous savez que le langage gestuel est très très important aussi. Beaucoup de choses se disent ainsi, et notamment dans le monde animal, où il y a aussi un langage des couleurs, un langage des attitudes, mais je ne vais pas développer. L'important, c'est que l'âme s'exprime par le langage, et l'âme de l'animal comme la nôtre aussi. On considère enfin que l'âme est le lieu ou la substance de notre intériorité, de notre moi, de notre personne, ou ce qui est dire encore la même chose, de notre liberté. Moi, je vous parle d'un lieu ici qui est mon âme, qui est mon moi, qui est ma conscience. Hein. Je suis là, en ce moment. C'est le lieu de notre liberté. Parce qu'elle occupe une situation intermédiaire entre le corps et l'esprit, on va le voir, l'âme a par exemple la liberté de n'accorder de valeur et de sens véritable qu'à ce qui lui vient du corps. Auquel cas, qu'elle le veuille ou non, elle contribue à la matérialisation et à l'objectivation du monde. Et combien nous connaissons de gens qui n'accordent de valeur, ni de priorité, ni d'intérêt dans leur existence que par ce qui leur vient par l'intermédiaire du corps, qui remonte jusqu'à leur personne, à leur âme, mais par l'intermédiaire de ses voies sensibles. Je dirais que la société occidentale, la société du monde moderne, le monde moderne, a choisi de se construire autour des informations, autour des valeurs qui lui viennent par ce canal-là. Or, attention, ici, et je disais hier à une journaliste que Jean-Paul II, on ne va pas parler de ça, était d'une extrême lucidité, justement, sur les valeurs de ce monde-là. Bon. Donc, si vous ancrez votre vie, si vous organisez votre vie, si elle est conditionnée uniquement par ce qui vous vient par travers le monde des objets, le monde sensible, eh bien, vous objectivez le monde et vous objectivez autrui. Et vous ne laissez pas la dimension, vous ne laissez aucune possibilité à la dimension spirituelle de se développer. Et quand vous êtes un soignant, quand vous êtes un aidant, que vous aidez des gens en fin de vie, que vous faites partie d'une unité de soins palliatifs et que vous vous trimballez avec une telle vision de l'homme, c'est une catastrophe, non, parce qu'on peut faire quand même du bien malgré tout. Mais ça verrouille beaucoup de choses. Et là, c'est très grave. Mais à l'inverse, l'âme tournée vers l'esprit et aimantée par l'esprit, on va parler de l'esprit tout à l'heure, eh bien, elle peut contribuer, au contraire, à spiritualiser le monde et à faire ainsi, non pas que l'enfer monte sur la terre, mais que le ciel descende sur la terre, pour employer cette image qui est utilisée notamment par Olivier Clément. Et nous retrouvons ici, mais autrement dit, l'immense responsabilité qui est la nôtre quand on fait le choix de se concevoir d'une façon ou d'une autre, quand on fait le choix d'orienter notre vie sur certaines valeurs qui viennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Alors, il est évident que pour le monde, pour l'homme moderne, tel qu'il est induit, suscité, fabriqué, formaté par la société actuelle, cette notion d'intériorité n'existe pas. Pour eux, c'est un vide complet. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. En dehors de ce qui leur vient par les sens, il n'y a rien, il n'est plus rien, ils sont face à un mur. Et les jeunes auxquels on enseigne à s'identifier avec la photo qu'il y a sur leur carte d'identité, qui croient n'être que ce que leur dit, que ce que la société leur dit qu'ils sont, qui se réduisent à cela, eh bien lorsqu'ils sentent en eux un vide énorme, parce qu'effectivement, nous sommes bien autre chose, et quand ils sentent que la société ne leur donne aucun aliment, aucun concept, aucune notion, aucune voie, aucun chemin, aucun mystère pour se réaliser lui-même, eh bien voilà, des phénomènes d'addiction, de suicide, de délinquance. Je dirais, tous n'ont pas leurs racines là, mais je pense que l'essentiel, comme l'essentiel des maladies mentales, ou au moins des néphoses, le père Laurence parlait hier justement de l'anxiété à propos de l'anxiété, de l'angoisse, etc., à propos de la méditation, eh bien voilà une racine justement de ces grands maux. Eh bien maintenant, bon, nous voici devant le plus difficile, évidemment, nous voici devant l'esprit. Alors, s'il s'agit d'une aporie, c'est-à-dire d'une difficulté suprême. Afin de faire pressentir la difficulté en question, j'aime à citer deux mystiques qui sont, je crois, parmi les plus grands que l'humanité ait connus. C'est dire qu'ils parlent de l'esprit en connaissance de cause. Le premier est hindou et il vivait au 8e siècle de notre ère. Le deuxième est allemand et vécu de 1260 à 1327. Alors, peut-être que vous les avez trouvés. Il s'agit de Shankara et de Maître Eckhart. Shankara disait de l'esprit qu'il est ce devant quoi les mots reculent. Façon intéressante de voir la chose, hein. Ce n'est pas l'esprit qui s'éloigne des mots, mais les mots reculent devant l'esprit, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à le cerner. Et Maître Eckhart disait que nul ne comprend ce que l'on dit de l'esprit qui ne le connaît déjà. Alors on va dire, si vous le connaissez déjà, ce n'est pas la peine que j'en parle. On se trouve devant une sorte d'aporie, de boucle, et vas-y, mais si c'est un cercle aussi vicieux que cela, quoi faire, quoi dire? Heureusement quand même, il y a des ruses pour permettre de rentrer dans ce cercle et pour permettre de parler de l'esprit, même à des gens qui en ont une très faible expérience, voire une expérience extrêmement minime. Néanmoins, je pense que c'est vrai. Si vraiment quelqu'un n'a nulle expérience, et ça je le vis quand même, de l'esprit, il y a des gens pour lesquels ce que je dis est totalement étranger. C'est du chinois, complet. Il y a des gens qui se présentent comme vous et moi et qui, socialement parlant, sont très heureux, mènent grand train de vie, etc., paraissent tout à fait normaux. Mais ils ne comprennent rien. Et ne comprenant rien, ils se sentent assez frustrés, ils se sentent attaqués, et le contact n'est pas facile. Mais bon, avec vous, c'est totalement différent, c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous. Mais donc, bien heureusement, tel n'est pas votre cas. En effet, rappelez-vous, je le disais, je suis certain qu'à un moment, aussi bref ce moment a-t-il été, vous avez eu la tête hors de l'eau. Mais nous le comprendrons mieux bientôt. L'esprit étant ce lieu en l'homme où ce dernier s'enracine en Dieu et où Dieu se déploie en lui, l'esprit humain, bien qu'humain, participe, il a part avec Dieu, il a part avec l'incréé, il a part avec l'infini, et par conséquent, nous trouvons là une raison pour laquelle, et tous les spirituels le disent, il ne peut nullement se définir. Parce que définir, c'est finir quelque part. Or, l'esprit, il échappe à chaque fois. Et d'ailleurs, on peut se dire que plus on s'approche de lui, plus il s'échappe, plus on est sûr que finalement, on est dans le vrai. Plus la vérité devient paradoxale, plus on peut penser qu'on dit vrai. Si tout se range en bon ordre, etc., bon, c'est qu'on peut être sûr qu'on est à côté de la plaque. Ou du moins, il y a de grandes chances. Enfin, Maître Eckhart développe ça très bien à propos de la théologie apophatique, etc., mais je ne vais pas le développer maintenant. Cependant, si on ne peut le définir, si nul ne peut le définir, on peut néanmoins le pressentir. Et me semble-t-il, on peut aider grandement ce pressentiment à se dessiner de manière plus nette, en campant, en situant, en quelque sorte, l'esprit par rapport à l'âme, autant que faire se peut. Eh bien, essayons. Tout d'abord, vous avez aperçu tout à l'heure, ou entreaperçu, la distance incommensurable, mais qui est expérimentale, qui sépare, en quelque sorte, le monde des idées et des rêves de celui des intestins, des os et des muscles. Une distance considérable. Il s'agit bien de deux ordres qu'on n'arrive pas à emboîter les uns avec les autres. Eh bien, représentons-nous déjà, en suivant le judicieux conseil de Blaise Pascal, que la distance séparant le monde de l'esprit, le monde sur lequel ouvre l'esprit, dont je n'ai pas encore parlé, que ce monde, donc, est encore bien plus éloigné du monde des sujets, du monde rationnel, du monde intelligible, de ce monde dans lequel nous vivons, du monde de nos pensées, que ce monde de pensées est lui-même loin du monde du corps. C'est ce que dit Pascal. La distance qui sépare, et là je n'emploie pas le vocabulaire de Pascal, mais celui de l'anthropologie biblique, la distance qui sépare l'esprit de l'âme est infiniment plus grande que celle qui sépare l'âme du corps, et pourtant de celle-ci nous avons déjà un aperçu de cette distance. Donc pensons un peu dans ces termes-là. Certes, la notion de distance qui est quantitative et géométrique, et ici très imparfaite, mais elle aide malgré tout déjà à mettre les choses un peu en place. Et de même en va-t-il de cette analogie suggérant que le corps ne délivre du réel qu'une image, on dira, à une dimension, à la manière, disons, d'une ombre flottant sur une corde à linge, en quelque sorte. Nous sommes dans cette image qui suggère que l'âme, pour sa part, eh bien, donnerait du monde une image plane, c'est déjà mieux une photographie à deux dimensions, on voit déjà mieux ce qui se passe, hein, qu'en suivant, effectivement, quelque chose, une ombre qui se déplace sur une corde à linge. Eh bien, l'esprit, ici, dans l'esprit de cette image, eh bien, l'esprit, lui, nous donne, du monde environnant, une image véritablement en relief à trois dimensions. Mais pour esquisser les rapports de l'esprit et de l'âme, il y a des analogies visuelles encore plus suggestives. Par exemple, celle de la figure cachée dans un dessin, c'est la plus simple, et qu'il convient de découvrir. Vous avez tous été enfants, vous avez tous fait jouer à ça. Il y a dans ce dessin un petit lapin où il y a un personnage qui est caché dans le feuillage d'un arbre, etc. Où est-il ? Et de chercher. Alors il y a un moment où on ne voit pas, même adulte on ne voit pas, et puis on cherche, on tourne. Et puis un moment on voit. Ça y est, on l'a aperçu. Eh bien, vous comprenez bien dans cette métaphore, l'image des yeux de l'âme, des yeux de notre intelligence, Enfin, les yeux de notre intelligence, ce sont ceux qui voient l'image, mais sans voir le secret, sans voir le personnage caché. Et puis tout d'un coup, la même réalité est vue différemment. Eh bien, ce sont les yeux de l'esprit qui voient ce qui est caché. Et ça, bon, je ne vais pas le développer plus avant. De même, les anamorphoses aussi, mais je ne vais pas encore le développer. L'anamorphose, vous savez, ce sont ces tableaux qui ne représentent rien. Mais si on se place à un endroit, ou si on regarde le reflet du tableau dans un objet particulier, à ce moment-là, on voit ce que représente le tableau. Eh bien, les yeux de notre intelligence, les yeux avec lesquels nous vivons, nos yeux naturels, en quelque sorte, y compris ceux de notre âme, eh bien, voient le monde mais ne le comprennent pas. C'est simplement quand on a le point de vue de l'esprit que tout d'un coup, tout prend un sens. Et c'est vrai, l'expérience spirituelle est telle, tout d'un coup, on se ressaisit, mais c'était ça, ça a un sens, et ce sens serait celui-là. Il y a un effet de surprise qui est exactement le même que quand on découvre la figure cachée, que quand on découvre le sens, donc, d'une anamorphose. Alors, ces images, je ne vais pas les développer plus, mais elles ont ceci d'extrêmement intéressant sur le plan pédagogique. Elles nous disent que le monde spirituel, le monde que découvre l'esprit, n'est pas un autre monde que celui dans lequel on vit. De même que le monde que vous comprenez avec votre âme, lorsque vous réfléchissez, que vous pensez, que vous parlez avec autrui, n'est pas un autre monde que celui que voit votre corps. Ça va, vous comprenez ce que je dis ? C'est le même monde. Ça, c'est formidable aussi si on commence à réaliser cela. Le monde spirituel, ce n'est pas le monde de l'au-delà. Ce n'est pas un monde qui est au-delà ou qui est plus tard. C'est hic et nunc. C'est ici et maintenant. Bon, maintenant, autre chose fantastique aussi dans ces images, c'est qu'elles peuvent permettre de comprendre que, en fait, les choses ne sont pas extérieures à nous. C'est-à-dire que lorsque je vois dans le monde que j'ai sous les yeux, lorsque dans mon tableau sensoriel je perçois autre chose, c'est que je suis moi-même autre chose. C'est un autre être qui se lève en moi. Vu ? Ça ne se passe pas là, devant, ça se passe là, à l'intérieur. L'âme est le lieu de l'esprit, comme le corps est le lieu de l'âme. Tout se passe à l'intérieur. Bien. Une autre image, et je n'en développe pas plus, c'est l'image de l'égyptologue, par exemple, à savoir, vous regardez, vous n'êtes pas, admettons qu'il n'y ait pas d'égyptologue parmi vous, vous allez en Égypte, vous voyez ces merveilles de hiéroglyphes sur les murs, vous voyez les formes, les couleurs, etc., mais vous ne comprenez pas le sens. Mais nous sommes effectivement, on pourrait dire, que l'homme psychique, l'homme naturel, celui qui n'a pas développé son esprit, est dans cet état-là, il regarde les lettres, il voit le papier, par exemple, il voit la calligraphie, il voit les formes, il voit l'encre. Mais c'est tout, il n'a pas le sens, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et les spirituels vous disent effectivement que lorsque les yeux de l'esprit, ou lorsque l'esprit s'éveille en l'homme, à ce moment-là, il commence à comprendre, il commence à réaliser le sens des choses. Alors on se plaint, notre vie n'a pas de sens, etc. On ne trouve pas le sens, on ne donne pas de sens. Mais tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne se donne pas les moyens, on n'ouvre pas la porte à ce qui donne du sens. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Dernier point, on y reviendra, sur l'esprit, je veux dire ceci. De même que le corps est ouverture et action, ça va, je pense que vous l'avez compris, sur le monde physique, de même que l'âme est ouverture et action, sur le monde psychologique, le monde des âmes, eh bien, l'esprit aussi, on peut le dire, est ouverture et action. Il est ouverture sur un monde particulier, sur le monde spirituel, entendons le monde total, le monde à trois dimensions. Je dirais non plus le monde de la sensation, qui est le monde du corps, non plus le monde intelligible ou de l'intellection, qui est celui de l'âme, mais on dira le monde de la contemplation. Et en méditant, les méditants emploient à très juste titre le terme donc de contemplation. Ce monde nous est évidemment moins familier, moins naturel que le monde biologique, tout simplement pourquoi ? D'abord, c'est parce qu'on a été conditionné à ne vivre que dans le monde naturel et biologique. Ça, il faut dire que notre société fait, sur ce plan-là, un travail tout à fait dommageable. Alors, suivant les époques et les courants de pensée, ce monde est revêtu de noms différents. Pour les philosophes, disons, il est ce qu'on appelle le monde des essences, et non plus le monde des apparences, par exemple. Il est le monde de l'un de Plotin, il est le monde des idées de Platon. En bref, je dirais, il s'agit du monde des réalités en soi. Entre parenthèses, c'est ce monde dont Nietzsche avait une horreur suprême. Nietzsche qui disait que l'Église avait, ou la religion chrétienne, avait inventé l'esprit et l'âme uniquement pour martyriser le corps. Bon, mais je ne veux pas vous parler de Nietzsche pour aujourd'hui. Je veux dire à propos de ce monde spirituel, qui le voit commence à avoir une perception plus claire de la raison ultime des choses, entrevoit leur début et leur fin. Alors, contrairement au monde ordinaire, et ça les bouddhistes le développent très bien, ce monde est un monde non local, atemporel, immatériel et par suite à causal. Ah, vous pensez que je parle du chinois, je vous dis ce monde, je pense que vous en avez l'expérience et je pourrais vous le développer tout à l'heure. Avez-vous été amoureux un moment ? Avez-vous été émerveillé ? Eh bien, on en reparlera peut-être. Eh bien, vous avez fait l'expérience de ce monde-là. D'où l'étonnement, voire la stupeur, mais aussi le ravissement de ceux auxquels ce monde se laisse parfois gracieusement, aimablement entrevoir. Suivant les religions, suivant les auteurs inspirés, il sera le royaume des cieux, par exemple de saint Matthieu, ou alors le royaume de Dieu, de saint Luc, de saint Marc, de saint Jean, le troisième ciel de saint Paul, le Brahman de l'hindouisme, le Nirvana, bien sûr, du bouddhisme, le Tao du taoïsme, la terre pure de l'amidisme, l'expression de terre pure est admirable aussi, enfin bref. Ce monde a différents noms, bien sûr. Mais il faut en être certain, ce monde spirituel n'est pas un au-delà de notre monde, il ne fait pas nombre avec ce dernier. Ainsi que je l'ai déjà dit, il est le même que notre monde, mais vécu différemment, ou plutôt vécu par un être d'une nature différente qui commence à lever en nous. Et c'est là la merveille, et c'est là où se trouve le sens, et c'est là le sens de la seconde naissance, c'est là le sens de la métamorphose dont nous allons parler, bien sûr, dans la troisième partie cet après-midi. Alors je disais que l'esprit est non seulement perception, mais aussi action. Le corps agit mécaniquement par ses gestes, l'âme par le langage. Le mode d'action de l'esprit est évidemment lui plus subtil. Il semble ne nécessiter aucune médiation. Il agirait, je dis bien comme ça au conditionnel, parce qu'on est dans un domaine, effectivement, qui est très complexe, très subtil, il agirait comme par simple présence, par émanation, par rayonnement. Qui a côtoyé des saints ou de vrais mystiques connaît cette impression. Et peut-être d'ailleurs, certains d'entre vous l'ont déjà éprouvé. Quoi qu'il en soit, il n'est ici question que d'action de l'esprit vers l'extérieur. Or, permettez-moi d'insister, l'action spirituelle est premièrement et avant tout dirigée non plus ad extra, mais ad intra, vers l'intérieur. Car je l'ai dit, si l'âme anime le corps et lui donne vie, l'esprit, pour sa part, spiritualise l'âme et le corps, et cependant, il les vivifie aussi. Le credo nous parle de l'esprit qui donne la vie, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il les vivifie aussi. Mais soyons très attentifs, là c'est assez délicat, assez fondamental, et j'y reviendrai tout à l'heure. La vie communiquée par l'esprit ne doit pas être confondue avec celle communiquée par l'âme. Il y a deux vies, je dirais, différentes, la naturelle et la spirituelle, et faute de distinguer les deux, on fait beaucoup de confusion, et on risque effectivement de rester dans ces confusions. La vie communiquée par l'âme, c'est la vie naturelle, biologique. On dira une vie qui est obligée dans la mesure où elle nous a été offerte sans que nous ayons eu la possibilité de la refuser. Ce que je dis comme ça, nous n'avons pas demandé à venir ici. Nos parents ne nous ont pas convoqués avant de nous faire naître. Nous sommes sortis, nous sommes arrivés sans qu'on nous demande notre avis. C'est en ce sens-là qu'il s'agit d'une vie obligée. Au demeurant, il s'agit aussi, au sens précis des mots, il s'agit... Et là, je parle en termes d'anthropologie holistique, d'anthropologie ternaire, spirituelle. Il s'agit d'une vie partielle, parce qu'il s'agit d'une vie qui ne donne vie qu'à nos deux étages, physique et psychologique. Il s'agit d'une vie, on va voir, relative, et pour bien des raisons, et d'une vie momentanée. Alors que la vie spirituelle, cette autre vie, mais qui n'est pas une autre, si c'est la même, hein, c'est toujours les paradoxes, hein. La vie spirituelle, celle dispensée par l'esprit, c'est une vie qui est libre, qui est totale, et c'est fondamental. Difficile à comprendre, j'insiste, on y reviendra, c'est une vie absolue et éternelle. Et ça, je ne connais nul père de l'Église pour avoir mieux expliqué ça qu'un des plus anciens, et c'est pour ça que pour moi c'est un bonheur extraordinaire que d'être à Lyon, c'est saint Irénée. Saint Irénée, docteur insurpassable, à mon sens, de l'anthropologie ternaire. Car l'esprit, tout en commençant à transfigurer celui qui l'accueille, eh bien, en transfigurant l'être, il lui confère une immortalité qu'il ne possédait pas. Ah, je vais me faire encore taper sur les doigts tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus, et ce n'est pas moi qui le dis. De moi-même, je ne dirai rien. Ce qui m'intéresse, c'est vous transmettre, en fait, une conception dont je connais la profondeur, la cohérence, l'intelligence et la luminosité. Eh bien, cette conception nous dit cela, et je vous affirme qu'elle est celle de l'Évangile. Et d'ailleurs, je dirais qu'elle ne m'intéresse qu'à ce titre. Que parce qu'elle est celle de l'Évangile, c'est pas parce qu'elle est celle de Saint-Irénée, c'est parce que celle de Saint-Irénée, on peut en être sûr, est celle des apôtres, et celle des apôtres est celle du Christ. S'il n'était pas ça, ben après tout, j'irai voir les écrits intertestamentaires, je m'intéresse aux gnostiques, ça m'est déjà arrivé, mais non. Là, ce qui est fondamental, c'est que c'est cela, nous remontons à celui qui a les paroles de vérité. Absolument. Lorsque nous parlons des différentes morts cet après-midi, et des immortalités que l'anthropologie demande de distinguer, je reviendrai sur ce sujet donc capital du fait que l'immortalité nous est proposée et qu'elle ne nous est pas imposée. Pour l'instant, concernant l'action de l'esprit, je désirais que nous retenions deux choses. La première est que cette action est aussi imperceptible au corps qu'inintelligible au seul mental. Je vous ai dit, des gens intellectuellement très développés, j'ai vécu en milieu universitaire où ces gens sont, ils savent tout, mais ils ne comprennent rien. Et notamment lorsqu'on leur parle, effectivement, de la dimension spirituelle. C'est évident. Donc, il s'agit effectivement d'une dimension donc très subtile et qui n'est pas donc visible aux yeux du corps, et qui n'est pas intelligible au seul mental, à la seule intelligence rationnelle. Pour commencer à percevoir ce qui se passe, eh bien, il faut déjà un petit peu soi-même s'être déjà ouvert à l'esprit. Rappelons-nous l'antique adage, seul le semblable voit le semblable. C'est-à-dire que seul mon esprit peut voir l'esprit qui est en vous, ou les fruits de l'esprit qui est en vous. Autrement dit, donc, sans mon corps, pas de corps, sans mon âme, pas d'âme, sans mon esprit, je ne vois pas l'esprit. L'autre chose que je voulais vous dire est que, du moins, dans notre condition actuelle, même au plus grand, eh bien, l'esprit ne se donne jamais à connaître en lui-même. Il se donne à connaître dans son fruit. On va revenir sur ce que le père Laurence disait tout à l'heure. Vous connaissez d'abord tous le principe du fruit. Jésus l'exprime, le dit très joliment dans Saint Luc, au chapitre 6. « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Sur les épines, on ne cueille certes pas des figues. Et sur un buisson, on ne vendange pas du raisin. » Parole extraordinaire. D'ailleurs, ce que la sagesse populaire dit de la façon suivante que j'aime beaucoup, eh bien, les chiens ne font pas des chats. C'est aussi un peu la même idée. Et quel est ce fruit, puisque nous parlons donc du principe du fruit? Pour l'observateur, qui de manière si incertaine que ça, que ce soit, et malgré tout de l'apercevoir, pour l'observateur qui est déjà sensible aux questions spirituelles, et c'est votre cas puisque vous êtes là, quel est ce fruit? Eh bien, c'est la deuxième chose sur laquelle je désire attirer votre attention avant que nous parlions donc de l'anthropologie ternaire dans sa dynamique. Eh bien, ce fruit, toutes les grandes traditions en donnent une peinture. Et là, puisque nous sommes dans le cadre de la tradition chrétienne, eh bien, il faut aller à Saint Paul immédiatement, Galates chapitre 5, verset 22. Quel est le fruit de l'esprit? Eh bien, le père Laurence nous l'a décrit absolument hier. Il l'a présenté comme étant le fruit de la méditation. Mais il a tout à fait raison, c'est la même chose. Ce fruit est d'abord amour, joie, paix, fidélité, bonté, humilité, tempérance, maîtrise de soi. Alors vous allez me dire, mais là, ce sont des qualités psychiques. Je connais des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, eh bien, qui sont parfaitement en paix avec eux-mêmes, qui sont très généreux, très aimables, qui ont une certaine humilité, qui aiment, etc. Oui, on est bien d'accord, mais il s'agit, et le père Laurence vous en a averti aussi hier, il s'agit d'entendre, effectivement, pardon, vous m'entendez mal? Oui, c'est mieux. Il s'agit de comprendre, donc d'entendre ces traits comme étant conditionnés par le premier. C'est-à-dire que la générosité, la fidélité, la bonté ne sont à prendre comme des traits spirituels que dans la mesure où ils expriment l'amour dont il est question en premier. Amour, paix. Et la paix dont il est question n'est pas la paix que donne le monde, le Christ le précise bien. La paix que je vous donne n'est pas celle que donne le monde. Et la joie dont il est question, c'est une joie sans cause. Et bon, on reparlera tout à l'heure de ça si on fait un peu de phénoménologie de l'esprit. Mais quand l'esprit montre le bout du nez, lorsqu'il vous fait la grâce, ou lorsque Dieu vous fait la grâce, effectivement, de se découvrir ou de s'ouvrir à vous, eh bien, le critère le plus simple, le plus immédiat, c'est la joie. Mais une joie souveraine. Et une joie qui n'est pas psychique. Pourquoi? Parce que rien de psychologique l'explique. La preuve en est, ce que je disais à une journaliste hier, la preuve en est, c'est que cette joie peut se déclarer dans les moments de déréliction les plus totales. Vous avez des témoignages de soldats dans des tranchées, dans des conditions absolument épouvantables, atroces, qui tout d'un coup, pour quelle raison, sont pris d'une sérénité, d'une paix, qui ont un dévouement à ce moment-là absolument extraordinaire. Bon, Tolstoï prend ça de façon admirable. Enfin bon, c'est des choses connues, mais dont on ne parle pas assez. Et là, donc, cette joie est une joie donc spirituelle. Bien, je ne peux développer maintenant cette énumération des neuf traits. Nous y reviendrons peut-être, puisque nous allons parler par la suite donc de la seconde naissance. On est en train d'essayer d'appréhender l'esprit. Je vais dire encore une chose, je vais un petit peu plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave. Rien n'est grave de toute façon. Je veux dire ceci. Vous trouvez dans l'Évangile des symboles et des paraboles remarquables, mais pourtant qui paraissent très complexes aussi, pour nous parler de l'esprit, pour nous parler du royaume des cieux, c'est-à-dire de ce monde sur lequel ouvre l'esprit. Or, on commence à comprendre l'esprit quand on commence effectivement à comprendre sur quoi il donne. Et on trouve dans l'évangile de Jean, son chapitre 15, je prends uniquement cette image, que je trouve qui est extraordinaire, insurpassable, qui est celle-ci. Dans le chapitre 15 de Jean, dans ce chapitre, qui est le chapitre donc du pain de vie, où il parle du pain de vie, le Christ nous dit... Pardon, je me trompe ? Alors non, je suis dans le chapitre 15. Voilà, oui, alors pardon, oui, excusez-moi, oui, tout à fait, je mélange deux choses. Je veux vous parler justement du cep et de la vigne. Eh bien, au chapitre 15, voici ce que le Christ donc nous dit, et je crois qu'il y a là l'image la plus juste et la plus précise qui se puisse jamais concevoir pour parler des rapports liant l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'esprit humain, à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Voici ce que dit le Christ. Il dit « Je suis la vigne véritable ». Et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Je suis la vigne, et vous les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Or, l'esprit de l'homme est bien en l'homme, le lieu de cette greffe. Le lieu de cette fécondation par laquelle la nature humaine s'ouvre à la nature divine et l'accueille, et par laquelle la nature divine se donne à l'humaine et en elle se déverse. L'esprit est le lieu donc de cette greffe, donc du sarment sur le cep. Selon moi, le symbole classique qui tente à faire comprendre l'esprit comme un organe de vision. Et ça, c'est la symbolique la plus courante. On cherche à nous faire voir l'esprit, mais c'est justifié comme étant le troisième œil, les yeux illuminés du cœur, et en nous parlant de l'esprit du monde sur lequel donne cet œil. C'est une façon très intéressante, excellente de parler de l'esprit. Soit. Mais je pense que ce symbole de la greffe est encore supérieur, ce symbole du lieu de fécondation est encore supérieur à l'approche de l'esprit en termes d'organe de vision. Cependant, je vais dire encore ceci, et j'en aurai terminé pour l'esprit pour le moment. Il y a encore, à mon avis, une façon plus riche, plus féconde, et ça va être celle que je vais vous demander de retenir lorsque nous parlons de l'esprit. Les deux façons dont j'ai parlé de l'esprit jusqu'ici l'instrumentalisent en quelque sorte. J'ai fait de l'esprit un organe de vision, un organe de fécondation, un instrument, un lieu. Or, l'esprit, il s'échappe toujours. Il est ce devant quoi les mots reculent. Où il recule devant les mots, devant, il ne veut pas se laisser enfermer par toutes ces approches. Or, l'esprit est bien autre chose. Qui en a une quelconque expérience, et vous en avez tous une petite expérience, aussi faible soit-elle, cette expérience nous dit qu'il faut dépasser cela. Car l'esprit est, au sens juste des mots, je dirais, il est un être. Il est un être vivant. Il est une présence vivante. Je pourrais dire encore une personne. Mais l'anthropologie ternaire, alors qu'on l'envisage uniquement sous l'angle de sa structure, eh bien, elle nous conditionne à le regarder malgré tout comme étant une partie, comme étant un élément. Eh bien, habituons-nous à considérer l'esprit comme étant l'être entier qui s'est ouvert à cet esprit. Et on trouve ce vocabulaire chez les pères. Par exemple, Ignace, si je me souviens bien, pas Ignace de Loyola, Ignace d'Antioche s'adresse à Polycarpe en lui disant « Toi qui es esprit ». Il ne dit pas « toi qui es corps, âme, esprit », il suffit de dire qu'il est esprit. Hein. Le fait donc de l'esprit, c'est cet être entier. On va dire, je vous propose d'en rester là pour le moment pour l'esprit est en nous cet être nouveau en quelque sorte, qui peut effectivement advenir et qui est notre être réel, essentiel, dont nous portons la promesse et que l'on va essayer maintenant de mieux appréhender en envisageant l'anthropologie ternaire dans son mouvement. Alors, dernière partie de cet exposé de ce matin. J'espère qu'il me reste... Alors, quel est le timing ? Dominique, où est-il ? Ah, alors, donc, il reste 10 minutes ? Oui, alors, vas-y. D'accord, très bien. Vous avez encore un peu de courage ?
Oui.
Je suis un peu cabotin parce que vous me diriez... Oh, non, pas du tout. Vous me diriez non, mais je dirais, c'est très bien, on passe aux questions après tout. Ça ne serait pas grave. Bon, donc, l'anthropologie ternaire considérée dans sa dynamique, et j'arriverai effectivement au bout de mon exposé, on continuera cet après-midi. Je viens de dire que l'esprit humain est une personne. Tout au moins, c'est ce que j'essaie de vous dire. Une personne que nous portons en nous. Une personne qui n'existe pas, bien sûr, mais qui est à venir, en fait. Hein. Lorsqu'on nous parle du Christ en nous, je dis oui et non. C'est un Christ que nous avons à faire venir, que nous avons à prier. Il n'est pas encore vraiment là. Bien, je viens de dire que l'esprit est humain et qu'il est une personne. L'expression est osée, je la sais contestable, mais gardons-la car elle explicite de l'esprit cette condition, qu'il partage d'ailleurs avec celle de l'âme, condition faisant qu'il ne peut se concevoir valablement que sous forme concrète et vivante. Nous l'avons déjà dit, l'âme, pas plus que le corps d'ailleurs, n'a de réalité en soi. Elle ne donne prise à l'observation et à la réflexion, à l'intelligence et à l'étude, que sous forme incarnée, que sous forme de l'unitotalité qu'elle anime, laquelle n'est autre que la personne naturelle, faite de corps et d'âme qui est la nôtre. De reste, donc, souvent dans l'écriture, le mot âme tout seul suffit à désigner cette personne naturelle en entier. Et bien, comme je disais, le mot esprit suffit aussi à désigner cette fois l'être achevé, accompli dans sa totalité tridimensionnelle. Mais maintenant, considérons le fait suivant avec une grande attention. Certes, alors que l'homme, en toute conscience, et dans la plus grande profondeur de son intériorité, consent librement à laisser grandir en lui son esprit, eh bien, il change fondamentalement de condition. Non d'abord sur le plan de l'apparence, mais sur celui de l'essence, qui est un monde qui n'est pas visible aux yeux du corps et qui n'est pas intelligible aux yeux de l'âme. Il devient en fait, sur ce plan-là, un être entièrement nouveau. En quelque sorte, il naît une seconde fois. Mais encore, et là le concept est piège, convient-il de bien comprendre cette seconde naissance qui est source d'erreurs et qui peut se montrer une voie de garage et aussi une voie catastrophique, hein. Encore faut-il bien comprendre cette image de la deuxième naissance. L'image de la parturition, l'image de l'âme qui, telle la Vierge Marie, adombrée par l'Esprit-Saint, engendre Jésus en son sein. Cette image est très belle, elle est employée très couramment, notamment dans la mystique rhénane. Mais elle incite à méditer, suivez-moi bien, cette idée, c'est qu'emploie le Christ, hein, il parle de la naissance d'en haut, il parle de la nouvelle naissance. Cette idée, cette notion de naissance, pour parler de la transformation dont nous parlons, est suprêmement intéressante, c'est une des meilleures métaphores possibles, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle nous parle, elle campe, elle incite à méditer sur deux personnes, dont l'une se séparera et se distinguera de l'autre, pour recevoir dans l'histoire une identité différente. Or, la transformation dont nous parlons, la naissance spirituelle dont nous parlons, il n'en va pas de même. Il n'en va pas de même de cette seconde naissance, de cette naissance par laquelle nous devenons enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de la naissance d'un autre être, c'est aussi nous-mêmes. Il est totalement autre et totalement nous en même temps. Donc, l'image de la naissance est excellente, mais elle a cette limite aussi. Elle a une autre limite dont je vais parler. Je notais ceci aussi. Il faut concevoir cette naissance nouvelle un peu comme la naissance progressive, on va dire, de l'adolescent dans l'enfant. L'adolescent n'est pas d'un seul coup comme ça. Il naît très progressivement. L'adulte monte progressivement, effectivement, dans le psychisme et dans le corps de l'adolescent. L'être nouveau qui monte, que nous appelons de nos voeux, eh bien, il monte tout aussi progressivement. Il ne s'agit pas donc d'un événement ponctuel qui est fait, ça y est, c'est fait, je suis né. C'est toujours Zindel. Je vais vous parler de Zindel maintenant, autrement je n'arrêterai pas. Zindel vous dira, jamais derrière, toujours devant. C'est toujours à faire. Toujours à remettre sur le métier. Donc, bien comprendre, commencer à bien comprendre cette notion. En fait, il y a une autre image pour parler de cette transformation, de la naissance et la venue esprit. Une autre image qui, pédagogiquement, est très riche, c'est celle de la métamorphose animale. Et tous les grands mystiques, enfin beaucoup de grands mystiques, y recourent, notamment Sainte Thérèse d'Avila, qui médite longtemps dans le château intérieur sur la métamorphose, donc du ver à soie qui se transforme en bombyx, vous le savez. Eh bien, cette image donc des métamorphoses animales, telle celle qui transforme les chenilles en papillons, ou différentes nymphes en libellules, en cigales ou en cétoines, est excellente. J'en reparlerai cet après-midi. Mais parmi les enseignements les plus féconds de cette comparaison, il en est un dont je veux vous dire un mot maintenant et sur lequel je vais terminer. Il y a un aspect de cette image, il y a un enseignement de cette image qui est le suivant, que les saints, les mystiques et le spirituel ont le courage de regarder en face, mais que nous, hommes ordinaires, nous nous empressons d'oublier. Et je ne dirais pas que je me suis fait injurier, mais presque, c'est une réaction que je trouve parfois dans le public, lorsque je prolonge ce parallèle entre la deuxième naissance et la naissance animale, et les métamorphoses animales, en employant le vocabulaire qui va suivre. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette image? À savoir que si l'anthropologie ternaire dit juste, vraiment ce que je crois profondément, hein, croyez-le, autrement je ne serais pas là, eh bien si elle dit juste en affirmant qu'il n'est d'homme fait, d'homme accompli, d'homme adulte, d'homme achevé, Irénée dit d'homme téléios, qui atteint le but, s'il n'est d'homme donc accompli que deux fois né, ceci de la même manière qu'il n'y a de papillon achevé qu'une fois sorti de sa chrysalide, qu'il n'y a d'imago que libéré de sa larve. Eh bien, ça signifie quoi, très exactement? Eh bien, ça signifie très exactement et inéluctablement que nous ne sommes pas encore des hommes. Du moins, pas vraiment. Du moins, pas encore. Car tel est un enseignement fondamental de l'anthropologie ternaire, lequel, comme bien d'autres, mais avant tous les autres, la distingue complètement de l'anthropologie moderne universitaire, bipartite et j'allais dire moralisante. Cet enseignement est que notre humanité, et je vais le dire à la manière de Maurice Handel, notre humanité n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous. Chaque matin, j'ai à la construire. Ah, ça c'est fou, ça donne du sens aussi à la vie, ça donne du boulot. Ça, c'est pas évident. Elle est devant nous. Cette leçon vaut pour chacun d'entre nous pris personnellement. Elle dit à chacun que son humanité ne lui est pas donnée, mais qu'elle est pour lui chaque jour donc une tâche. Cette leçon est d'une lucidité extrême et elle doit nous inciter à une modestie et une humilité non moins extrêmes. Mais elle est seule, au fond, je crois, cette leçon, assez forte, douloureuse et cinglante aussi, pour que nous tentions, en fait, l'effort de nous libérer de celui que nous croyons être et que nous ne sommes pas, pour devenir enfin celui-là même que nous sommes, celui-là même dont nous portons tous au tréfonds de notre cœur l'indéfectible nostalgie, et qui, depuis la nuit des temps, en fait, nous appelle, nous attend, nous aime, et c'est pour ça que vous méditez, c'est pour ça que nous méditons, bien sûr. Alors je terminerai cette conférence par un mot sur le thème suivant, qui me fait particulièrement plaisir et qui m'émeut beaucoup. Je terminerai cette première conférence en attirant votre attention sur cette coïncidence que je crois providentielle, en tout cas extrêmement gracieuse, et qui nous concerne tous. C'est en effet aux portes de Lyon, il n'y a pas de doute, Écully-Lyon, c'est pas très loin, c'est aux portes de Lyon que nous nous réunissons tous aujourd'hui pour mieux découvrir les enseignements de l'anthropologie ternaire et spirituelle. Or, je l'ai laissé entendre, le premier et plus grand commentateur de cette anthropologie ne fut autre que saint Irénée, premier évêque de Lyon, primat des Gaules, personnage immense, dont on a dit que la pensée, telle la lumière rayonnant d'un phare qui domine la mer, la pensée éclaira en son temps tout l'Occident. Et Jean Danielou dit de l'œuvre de Saint-Irénée, quelque part, il faudra que je trouve la référence, qu'il pense qu'elle est pratiquement aussi inspirée par l'Esprit Saint que l'Évangile. En gros, il le laisse entendre. Que le degré d'inspiration, le niveau d'inspiration de cette œuvre est absolument inouï. Il y a aussi, et encore, regardez la suite, les phénomènes de synchronicité, de corrélation, en quelque sorte, de conjonction providentielle sont assez extraordinaires. Il y a aussi que nous devons la plus parfaite, la meilleure des études historiques et de très loin, la seule en fait véritablement fiable de l'anthropologie tripartite, nous la devons à Henri de Lubac, qui, comme vous le savez, entre sa mise à l'index, il a eu un parcours un peu difficile, et sa création comme cardinal, eh bien, il a enseigné, je crois, au moins pendant une trentaine d'années, à la faculté, il enseignait, je crois, la théologie fondamentale, à la faculté catholique, devinez d'où, de Lyon. Bon, c'est quand même aussi significatif. Mais ce n'est pas tout. Après avoir été rejeté dans la nuit des temps et impitoyablement tenu à l'écart, comme nous l'apprend d'ailleurs Henri de Lubac pendant des siècles par les grands dignitaires de la curie romaine, voici qu'en ce moment même, depuis quelques mois à peine, l'anthropologie ternaire est en train, je dirais à mon sens, de renaître de ses cendres et de retrouver, cette fois de manière tout à fait officielle, eh bien elle est en train de retrouver droit de cité au sein même de notre Église, de l'Église catholique romaine. Je dirais, je n'engage que moi, mais quant à moi, je suis sûr qu'en matière de doctrine, nous avons là affaire à un événement que je vois comme étant historique et auquel je serais peut-être enclin, pour ma part, d'accorder véritablement une portée peut-être prophétique. Or donc, eh bien, devinez, où se passe cet événement? Eh bien, à Lyon. À Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules, archevêque de Lyon, qui nous honore ce matin de sa présence, eh bien vient il y a peu, je crois que c'était au mois de septembre dernier, d'ouvrir donc un triennium, c'est-à-dire une période de 3 ans, qui sera consacrée à la découverte et à l'explication de l'anthropologie chrétienne telle qu'elle s'exprime donc chez saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, triennium donc consacré à expliquer aux fidèles du diocèse les beautés, la grandeur, en quelque sorte, de cette anthropologie ternaire. Alors voilà, prendre de nos jours une semblable initiative dans un diocèse d'une importance historique, je dirais, symbolique quand même aussi considérable que le diocèse de Lyon, bien pour moi, ça signe de votre part, Éminence, une volonté et un courage qui m'émeut profondément et dont je crois nous ne vous serons jamais assez reconnaissants. Voilà, je vous remercie de votre attention.